in your poem. Love is what makes the world go round. So people, listen carefully.
Middag 3 uur geweest. En dat betekent dat het op Radio Paddepoel tijd is voor Radio Teranga. Live vanuit Amsterdam. En Dakar. Het kunsteiland Goeree speelt mee. En we hebben nog... Ik hoor je niet. Waarom niet?
Van Amsterdam naar Dakar en van, weer terug.
Van Amsterdam naar Dakar en weer terug.
Maar,
Een echo.
Nou hoor ik mezelf nog een keertje terug. Dat is...
Ja, dat komt door mij. Dat komt door mij.
Door jou, door jou, door jou.
Ja, dat komt door mij.
Maar
dus, wauw. Ja, door mij. Dat mag ik niet doen.
Je gelijk van hoesten.
Ja.
Ja. Nou ja, goed. Dames en meisjes, jongens en heren. Wij wachten op verbinding met Dakar. En dat doen we samen met Bart en Michel. Vooralsnog. Misschien ook met Anne, die misschien meeluistert op Schiphol, op weg naar daar. En ja, nou gezellig wat het allemaal zijn. De zon schijnt op studio Sacco door het raam vanuit het zuidwesten. En ja, het is lekker weer hier. Ik ben door de regen hier naartoe gekomen, maar het is nu droog. Dus hoera, hoera, hoera. Ja, nou, wat zal ik zeggen?
Ja. Ik niet juist.
Is het
ik kon niet met de metro.
Zolang we op Dakar wachten, op de verbindingen, daar kunnen we misschien even luisteren naar een interessante bijdrage van ene Jo van der Spek, die in Rotterdam is geweest en daar een professor tegen het lijf liep die een interessant verhaal afstak.
Okay.
Een gesprek van een kwartiertje. Zullen we daar dan mee beginnen?
Ja, laten we dat doen. Ruben Timmerman.
Nou,
van uit Rotterdam. Sorry, je gaat het zelf aankondigen, dus daar komt hij nu.
Ja, afgelopen 10 dagen geleden, zondag, was ik dus in Rotterdam bij de waken waar elke maand bij de gevangenis voor de vreemdelingen op het vliegveld daar mensen worden vastgehouden. En tot mijn toch wel een beetje verbijstering vernam ik daar van een Ruben Timmermans, die ervoor heeft doorgeleerd, dat er jaarlijks echt tientallen EU-burgers gewoon in vreemdelingenbewaring worden gezet. En ook zelfs nog gedeporteerd. Het goede nieuws is dat ze vaak ook weer gewoon terugkomen. Want het zijn EU-burgers die vrij mogen reizen. Maar why zitten die mensen daar vast? Ruben Timmerman, wat heb jij daarover ontdekt? Waarom worden die mensen daar vastgehouden?
Ja, hi. Ik ben Ruben Timmerman inderdaad. Ik ben onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En ik heb onderzoek gedaan naar de... arbeidsmarktomstandigheden, de positie van arbeidsmigranten in Nederland. Dat zijn voornamelijk EU-burgers inderdaad. Dus mensen uit, landen zoals Polen, Bulgarije of Roemenië. Nou ja, waarom deze mensen worden uitgezet? Het komt inderdaad, er zitten heel veel EU-burgers in vreemdelingendetentie. Niet eens tientallen. Ik heb weer de meest recente cijfers gekeken van de DTNP, dus de Nederlandse dienst terugkeer en vertrek. En daar zie je dat in bewaringstellingen van bijvoorbeeld alleen Poolse arbeidsmigranten is 180.
Per jaar,
de vertrek uit bewaring is dan ook 140. Dus ze zijn echt de tweede grootste nationaliteit als het gaat dan om ja, gedwongen terugkeer eigenlijk uit Nederlandse vreemdelingendetentie.
Is dat 140 per jaar of wat?
Ja, dat is dus dat is eigenlijk tot en met juni 2015 zijn er al 140 Poolse mensen uit vreemdelingendetentie uitgezet.
Ja.
Ja.
En hoe vaak komen ze dan weer terug?
Ja, dat is dus een beetje de vraag. Er is nog heel veel onduidelijkheid over, want dat zijn dan inderdaad mensen die dan vaak ook terugkeren. Ik heb wel een interne rapport gekregen voor mijn onderzoek van de AVM, dat is de vreemdelingenpolitie afdeling in Amsterdam, waaruit blijkt dat er echt wel in ieder geval tientallen weer terugkeren elk jaar. En dat sommige mensen echt wel tot 15 keer al eerder uitgezet zijn.
Dus ze krijgen eigenlijk gewoon een gratis kaartje naar huis en dan kunnen ze later weer op eigen kracht terugkomen.
Nou ja, een beetje wel, ja.
Okay. Maar hoe lang zitten ze dan gevangen?
Ja, dat is heel erg afhankelijk. Ze gaan volgens mij, dat weet ik dus ook niet helemaal. Dus, ja, dus daar heb ik niet heel veel zicht op, maar ik denk niet heel lang. Dat gaat best snel. Er zijn gewoon goede afspraken gemaakt in principe met de Poolse autoriteiten. En het is niet zoals bijvoorbeeld bij Algerije en landen zoals Marokko, waar mensen echt heel erg lang vastzitten.
Okay.
Volgens mij is dat bij deze doelgroep dat niet het geval. Ik denk dat mensen best wel snel weer uitgezet worden.
Dus het is allemaal niet zo erg als ik dacht eigenlijk.
Wat zeg je?
Het is allemaal niet zo erg als ik dacht eigenlijk.
Ik vind het toch best wel erg, vooral omdat het ook een best wel kwetsbare groep is. Hè? Dus je vroeg eigenlijk van hoe komen deze mensen dan in vreemdelingendetentie. En ja, dit heeft echt wat te maken met ook de omstandigheden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het zijn dan vooral mensen die aan de onderkant van de arbeidsmarkt werken. Mijn grotere onderzoek, het gaat vooral om de positie, de omstandigheden. En vooral misstanden op de werkvloer zelf.
Ja, ik moet even onze luisteraars vertellen, want jij bent dus 2 jaar ondergronds gewoon in de slachthuizen en in de distributiecentra en in de bouwplaatsen geweest om te kijken wat er gebeurt, hè?
Ja, klopt. Ik heb een jaar lang fulltime gewerkt, over een periode van 2 jaar, maar een jaar lang heb ik fulltime gewerkt in 3 sectoren.
Ook dus in de slachthuis?
Nee, wel in de agrovoedingssector, niet in de slachthuizen, maar wel in de bouw, de agrovoedingssector. Dus waar er dan groente en fruit gesorteerd worden aan de productielijn.
Ja.
En inderdaad in de logistiek, dus een grote distributiecentrum van distributiecentra's. Dus daar heb ik dan inderdaad een jaar lang fulltime gewerkt om een beetje een beeld te krijgen van de realiteit van deze mensen op de werkvloer. Ja.
En heb je daar vrienden gemaakt?
Jazeker. Ja, ik heb heel veel mensen daar ontmoet natuurlijk. En ook mensen met wie ik nog steeds contact heb. Maar ja, dat zijn wel mensen die dan met heel veel economische onzekerheid hier in Nederland wonen. Ze hebben in hun werk hebben ze heel veel onzekerheid. Dus mensen die komen hier dan eigenlijk naar Nederland vaak via een uitzendbureau. En bij die uitzendbureau is dan hun werk ook verbonden, arbeidscontract ook verbonden aan bijvoorbeeld huisvesting. Dus ze zijn ook heel erg afhankelijk van de uitzendbureaus. Dus als ze hun baan kwijtraken, dan zijn ze ook vaak een huisvesting kwijt. En zo belanden ook heel veel arbeidsmigranten in Nederland op straat.
Ja. Nee, dit verhaal is eigenlijk wel bekend, denk ik, bij veel mensen. Want we hebben roemer gehad en wij zien af en toe wat er gebeurt, weet je wel. Maar waar ik nog even naartoe wil is, want dat is een hele interessante conclusie. Je hebt ook eigenlijk onderzoek gedaan naar de hulpverleners, hè? De NGO's, de Leger des Heils en de Stils en de weet ik veel, de ROS in Rotterdam, waar ze die mensen opvangen en waar eigenlijk in plaats van vluchtelingen of illegaal verklaarden er steeds meer arbeidsmigranten aankloppen voor een hap eten of een chill, weet je wel. Dus dat vind ik dan interessant, omdat jij ook constateert of observeert dat dit soort instellingen eigenlijk worden medeplichtig gemaakt of medeverantwoordelijk worden gemaakt voor het beleid wat inclusief detentie en deportatie is. Leg dat eens uit.
Ja,
ja, nou ja, het is best wel ingewikkeld, hè, want het klopt inderdaad dat de veel organisaties op lokaal niveau hier, die krijgen steeds meer te maken met EU-arbeidsmigranten die dan op straat terechtkomen. Hè, want ja, die worden dan dakloos. 3 op de 5 mensen die vandaag in Nederland op straat wonen is arbeidsmigrant. Dat wordt geschat door verschillende organisaties. Ja, die kloppen dan inderdaad bij organisaties zoals nou ja, Stichting Ontmoeting, Leger des Hels, Stichting Parka.
Wereldhuis, ja, hier.
Ja, en dus zij komen daar dan voor hulp en voor opvang nou ja, toegang tot allerlei voorzieningen enzovoort. Maar ja, ze hebben vaak niet dezelfde toegang als gewoon de Nederlandse burgers. Hè? Dus ze hebben bijvoorbeeld geen toegang vaak tot noodopvang. En dus eigenlijk heeft de gemeentes en andere organisaties die proberen dan deze mensen te helpen. En één manier om deze mensen te helpen is om ja, mee te helpen met terugkeer naar de arbeidsmarkt. Hè? Dus zodat ze weer werk kunnen vinden. Maar voor degene waar ze dat of terugkeer terug naar het land van herkomst. Ja. En daar zie je bijvoorbeeld organisaties zoals Stichting Barken, die helpen dan ook arbeidsmigranten eigenlijk een beetje, ja, en andere organisaties ook een beetje te overtuigen van, is het niet beter om gewoon terug te gaan naar het land van herkomst en daar weer een leven op te bouwen, want het lukt hier niet in Nederland. Ja, als ze daar niet in slagen, dan komen die mensen inderdaad, als ze vaker in contact komen met de politie, uiteindelijk komen ze in vreemdelingendetentie terecht. Hè, want dan kunnen ze de verblijfsrecht van EU-burgers kan op dat moment ingetrokken worden. Als ze bijvoorbeeld voor te veel overlast veroorzaken. En dus je ziet inderdaad dat organisaties er steeds meer een actievere rol in spelen om arbeidsmigranten te helpen met terugkeer naar land van herkomst of terugkeer naar werk. En dan ja, als dat niet lukt, dan komen ze uiteindelijk inderdaad in vreemdelingendetentie terecht. Dus ja, het is een hele complexe situatie eigenlijk, want ja, dat zijn natuurlijk arbeidsmigranten die hier echt wel in de problemen komen hier in Nederland. Maar ja, zo zie je ook dat organisaties die zijn daar wel ook bij betrokken bij dat terugkeerbeleid. Ja.
En vinden ze dat zelf ook, dat ze daarmee eigenlijk het voorportaal van de hel zijn?
Dat de organisaties, ja, ik denk dat sommige organisaties hebben daar misschien wel wat moeite mee. Maar ik heb bijvoorbeeld wel organisaties gesproken die zeggen van ja, hun primaire taak nu eigenlijk is om arbeidsmigranten te proberen overtuigen om terug te keren naar land van herkomst. Dat is natuurlijk heel gek.
Ja, maar wat is vrijwillig, hè? Ja, wat is vrijwillig?
Ja, nou ja, precies. Dus dat is ook een punt wat ik maak in mijn onderzoek.
Ja, en daarmee lopen ze dus ook het risico dat ze het vertrouwen verliezen van deze community. En dat ze daarmee nog verder in de shit raken. En dan gebeuren er dus hele gekke dingen. Want als je mensen terroriseert, dan worden ze terrorist. In potentie.
Ja, wat ik eigenlijk vooral de risico vind, is dat we zijn natuurlijk ook heel erg afhankelijk van deze organisaties. En ook vooral de vertrouwensrelatie die deze organisaties hebben opgebouwd met migrantse gemeenschappen. Dat is heel belangrijk ook dat migranten en ook arbeidsmigranten deze organisaties blijven opzoeken voor hulpverlening en voor informatie en alles. Maar ja, het is inderdaad de vraag van tot in hoeverre is dat vrijwillig? Hè? Want je wordt wel door de omstandigheden, ook de economische positie en de kwetsbare positie waar ze in zitten, worden ze ook wel een beetje afgedwongen om dat inderdaad mee te werken aan terugkeer.
Ze krijgen er ook voor betaald door de overheid.
Dan niet de arbeidsmigranten, maar de organisaties. Ja, de overheidsfonds is daarvoor vrijgesteld. Ja.
Hoeveel? Weet je hoeveel?
Dat weet ik niet nu uit mijn hoofd. Nee, het wordt ook uitgedeeld aan allerlei gemeentes en zo. En dan via de gemeentes. Ik zou het niet weten.
Ja, precies, nee, het is een business, net als de wapenindustrie. Ze hebben de tijd mee.
Ja, of het een business is, dat weet ik dus niet. Hè? Dus daar heb ik nog niet zoveel zicht op, maar ik denk dat het wel belangrijk is.
Dat weet ik wel, maar dat is een ander verhaal. Ligt de NRC.
Ja. Ja, en ik ben ook niet de enige natuurlijk die daar wel kritiek op heeft. Of kritiek, ja, die daar toch wel het van belang vindt dat we daar kritisch naar kijken. Ja. Hè? Van ja, hoe wordt hier eigenlijk mee omgegaan? En tot in hoeverre is het inderdaad een business? En halen deze organisaties er ook voordelen uit? Ja, ik denk dat dat wel een belangrijke vraag is, ja.
Ik heb nog een paar korte vragen, want ik vroeg me af, heb je ook met vakbonden contact gehad of met vakbondsmensen over deze zaak?
Ja, daar heb ik zeker contact mee gehad tijdens mijn onderzoek. Ik moet zeggen dat vakbonden die proberen de afgelopen jaren vooral steeds meer contact op te zoeken met arbeidsmigranten, maar het is een hele lastige doelgroep. Ze hebben natuurlijk heel veel taal- en culturele barrières, maar je merkt wel bij de vakbonden dat ze steeds meer consulenten bijvoorbeeld aannemen die ook talen spreken, dus Pools of Bulgaars of Romeins. En op zo'n manier ook proberen ja, steeds meer contact op te zoeken met arbeidsmigranten. En dat lukt soms ook wel. Dus en ja, je ziet wel bijvoorbeeld dat steeds meer arbeidsmigranten betrokken zijn bij stakingen. En dus, ja.
En is er sprake van enig georganiseerd verzet tegen deze gang van zaken? Met name die detentie en deportatie?
Niet echt detentie en deportatie, nee. Dat is ook een reden waarom ik eigenlijk dat ook als onderdeel van mijn onderzoek mee heb genomen en ook een artikel gepubliceerd heb. Want het is iets wat mij heel erg opvalt. Hè. Er is gewoon heel weinig aandacht voor dit. En ik denk de reden is dat mensen, normaal gesproken, als ze denken aan vreemdelingendetentie, ja, dat heeft dan eigenlijk niks te maken met EU-burgers.
Ja.
Maar dat is dus niet zo. Er zijn echt honderden EU-burgers in vreemdelingendetentie.
Ja.
En die ook ja, inderdaad te maken krijgen met gedwongen terugkeer. En ook mensen die dan ja, constant hier terugkeren en die hier gewoon niet een fatsoenlijke leven kunnen opbouwen, omdat ze ja, uiteindelijk hier niet welkom zijn.
Gaat het eigenlijk alleen over mannen of gaat het ook over vrouwen? Hebben we het alleen over mannen of ook over vrouwen? Of kinderen?
Nee, je hebt het echt over mannen en dan vooral als je het hebt over vreemdelingendetentie. Mm. Er worden wel vrouwen die worden ook wel geholpen met terugkeer. En ik denk ook wel hele jongeren. Hè. Dus ik was bijvoorbeeld bij een organisatie en daar waren dan twee jongens uit Litouwen. Die waren echt heel jong. Die waren dan niet echt minder. Volgens mij waren die net 18. Maar die hadden geen werk meer en geen onderdak. En dan hadden ook geen toegang tot noodopvang. En dus die moesten gewoon uiteindelijk op straat slapen.
Hmm.
Dus je ziet echt wel de schrijnende situaties. Ook met echt jonge arbeidsmigranten. Die zie je wel.
Ja. Ja. En dat artikel staat in het roemruchte tijdschrift Krimigratierecht, hè?
Krimigratie en recht, ja.
Ook Krimigratie en recht. En dat is vorige week vrijdag verschenen. En ik heb een exemplaar in PDF. Kan ik dat doorgeven aan mensen die dit moeten weten?
Het is een wetenschappelijke tijdschrift. Ik geloof dat dat pas over een paar maanden, gewoon 3 maanden, wordt dat dan openbaar. Dus dan komt het ook, ik denk dat het nu nog kort, nog voor een paar maanden onder embargo staat.
Oh, ja. Nou, dan zal ik het heel vertrouwelijk aan mensen die het moeten weten misschien.
Ja, dat kan wel, zeker.
Zonder het jou te vertellen, zal ik dat dan doorgeven.
Ja, dan mag ik officieel dat niet.
Ja.
Nee. Ja, als het maar niet online gepost wordt ergens, dat
is. Nee, dat niet, nee. Slotvraag. Binnenkort gaat de Eerste Kamer zeggen of we illegalen mogen helpen of niet, hè?
Ja.
Illegaal verklaarden, waaronder deze mensen, waaronder die jongens.
Ja.
Er zijn een aantal mensen die zich willen aanmelden als verdachten. En er zijn er nu een kleine 50, denk ik. Sluit je je daarbij aan?
Als verdachte?
Als verdachte van hulp aan illegaal verklaarden.
Ja, sluit je me daarbij aan? In de zin van?
Nou, je hebt een wetenschappelijke belangrijke bijdrage geleverd aan het begrip voor deze mensen. Dus dat is een vorm van hulpverlening, kun je zeggen. En dan ben je dus strafbaar.
Ja, misschien. Ik sluit me daar zeker bij aan. Ja, ik bedoel, volgens mij is het puur symboolpolitiek. En ik ben benieuwd hoe dat uitpakt. Maar ik sta zeker in solidariteit met alle organisaties die ongedocumenteerden willen helpen.
Oké, nou, dan zien we elkaar op Dolle Dinsdag. Joepie. Hey, hartstikke mooi werk, Ruben. Goed je te leren kennen. Het is echt de moeite waard om af en toe naar Rotterdam te gaan. Als je nog eens in Amsterdam komt, 26 oktober is een goede datum. Een zondag, dan herdenken we de Schipholbrand met z'n allen.
Ja, ik zag het. Ik sta in mijn agenda. Dus
En gisteren was de demonstratie in Rotterdam, hè? Of zondag. Er was ook nog een demonstratie in Rotterdam.
Ja, klopt. Ja. En daar was ik niet bij helaas. Maar,
gaat goed hoor, gaat goed. Ze gaan hier een informatielijn openen en in Wageningen hebben ze gedemonstreerd. En dat wordt nog een gezellige zomer.
Ja, zeker.
Let's make it hot. Oké. Okay.
Absoluut.
Hey, groeten aan je zoon en ik ga mijn hondje uitlaten. Doei.
Oké, dankjewel. Doei.
Ciao.
Doei.
Hoi, menu.
Oh, dag luisteraar. Het was de Ruben Timmerman die een studie heeft gemaakt van illegale Europese burgers. Was nieuw voor mij en ik denk dat het voor veel mensen nieuw is. Dus interessant, deze materie. En ook leuk dat hij meedoet met Dolle Dinsdag. Ja, geweldig. Goeie gast.
Dolle Dinsdag, want je zei top Dolle Dinsdag. Ja, maar wat is dat een geheim code?
Nou, de Eerste Kamer vergadert op dinsdag. En de eerste vergadering van de Eerste Kamer is toevallig op 5 september. En de 4 september 1944 was Dolle Dinsdag. Dus ik dacht, we maken er een herbeleving van.
Ja, daar zit wat in.
Maar toch?
Moet je wel even uitleggen, want alleen Dolle Dinsdag denk je, ja.
Ja, maar is nog geheim.
Dat vorige Dolle Dinsdag van de oorlog, dat was dat ze dachten dat de nazi's waren verslagen en weg waren. Maar toen was het nog niet zo.
Ja, precies. Maar nu hebben we het over de nieuwe nazi's.
Ja.
Dus
maar laat ze dan wel verslagen zijn. Maar dat is
nou, dat gaan we zien.
Ja.
Het is, maar het is nog geheim eigenlijk.
Oké, dan zeg ik het niet verder.
Nee, knip het er maar uit. Ja. Doei.
Echt?
Ik geloof dat we een luisteraar hebben die de microfoon uit heeft staan. Ik ga het even in het Frans proberen. Allo, allo Dakar, bonjour.
Allo, bonjour.
Hey, Mustafa.
Bonjour.
Yeah, you can hear me?
Yeah, I can hear you loud and clear. How are you?
Yeah, I'm fine.
Thank you. Are you at home?
I'm at home, yeah.
Okay, sounds good. How is everything?
Everything good. Nice to come back at the program Radio Piranga.
Okay, I have to say hello to Kine because she had a birthday. Wow!
Okay.
Do you see her?
Yeah, I will tell her to join the program.
Okay, you can sing together.
All right.
Yes, nice.
Nice.
Okay, but there's somebody else. Il y a quelqu'un d'autre. Qui est ça? Ah, Dédicacer. Dédicacer, bonjour. Dédicacer. Je vois une email adresse, mais le personnage n'a pas ouvert son microphone. Le microphone se trouve en bas de l'écran, à gauche. Of ben ik het zelf? Nee, dat kan niet. Nou, c'est un miracle. Ah, oké. Mustafa. Dis-moi.
Ouais.
Tu es le seul de Dakar dans la émission. C'est un peu...
Moi, c'est là.
Allô, allô, qui est là?
Allô, oui. Moi, c'est ici, là. Alioun.
Alioun, ah, bonjour.
Oui, je suis là depuis longtemps. Je vous ai écouté à parler un peu votre langue, là. Je n'ai rien compris.
Oui, non, mais maintenant on va parler en français, ok?
D'accord, oui, ça va bien, merci à vous.
Vous êtes dans le village?
Non, je suis pas au village, je suis à la maison seulement.
Ok, tranquille.
Ok, passez le bonjour à tout le monde. Hein.
Merci bien, Jeff. Ok. Bon, en entendant Kiné, je peux te. Introduire un peu sur la situation actuelle de notre projet. Parce que tu sais que l'idée, c'est que Moma et Adi vont voyager en Hollande pour assister à la manifestation, pour célébrer la vie de Sacro, pour célébrer, pour démontrer qu'est-ce que c'est Teranga, et aussi pour commémorer l'incendie à Schiphol Airport. Le 26 d'octobre. Mais vous savez que c'est pas très facile d'obtenir une visa pour les Pays-Bas, pour l'Europe. Alors, ça m'a causé beaucoup de travail et beaucoup de stress. Mais finalement, j'ai registré avec la communauté d'Amsterdam mon demande d'être garanteur et inviteur de deux artistes de Sénégal pour assister à la manifestation d'art et ta. Et dans quelques jours, je vais recevoir un papier qui doit nous permettre d'aller à l'ambassade de Dakar
pour donner tous les documents, l'invitation, les billets d'avion, l'assurance et les documents de Momar et les documents de ta. Et après, une avis de l'ambassadeur de Hollande à Dakar, elle va envoyer notre demande de retour en Hollande à le service d'immigration qui s'appelle le IND. Et c'est le IND qui va décider s'ils vont donner le visa. Et ça va durer encore 6 semaines. Alors, ce sera tout à l'heure pour arriver à temps en Amsterdam si on obtient le visa. Mais ce n'est pas tout à fait sûr, parce que l'IND, c'est contre immigration, tout de suite. Mais on va voir. Si ça ne va pas marcher, nous allons développer 2 alternatives. Le premier alternative, c'est de faire tout plus tard, peut-être dans une demi-année, avec une nouvelle procédure pour arriver ici. Mais en même temps, on développe aussi un plan pour faire la construction du baobab ensemble entre Amsterdam et Dakar, en installant une connexion avec audio et vidéo, peut-être dans l'atelier de Momar ou peut-être dans le village, pour que vous pouvez tous assister et communiquer avec les artistes et les constructeurs ici pour ensemble faire un baobab. Parce qu'il doit être présenté dans la manifestation. Tu comprends? Tu comprends ce que je t'explique?
Oui, on comprend bien.
Ok.
Vraiment, je comprends bien.
Ok.
Je voudrais savoir quelle dimension de baobab vous allez construire, vous allez faire.
C'est le baobab qui va être construit en Amsterdam de fer, de métal utilisé, de recyclage pour créer un monument pour Teranga, pour Sako et pour tous.
Oui. Un monument, quoi.
Oui. Aline, excusez-moi. Ta téléphone. C'est pas très bien la connexion. Tu peux parler un peu plus fort, un peu plus proche du microphone?
Non. Ok, d'accord. Là, ça marche?
Ça va marcher mieux, peut-être, oui.
Ok, d'accord. Okay. Donc, je dis la dimension du baobab là, de combien de mètres, si c'est quelque chose de grandiose ou bien quelque chose de. En
ouais.
Petit ou bien en grand, quoi.
Oui, mais ce sera une 5 mètres.
À 5 mètres de haut.
Oui, d'accord. Oui. Ça doit être plus qu'un homme. Hein? Parce que les hommes et les enfants doivent se cacher sous l'arbre. Alors, ça doit être un peu plus grand que 2 mètres. Oui.
Oui, oui. C'est pas une petite chose.
Et la dernière fois, on a discuté comment faire et on a décidé de faire aussi une escalade pour que les enfants puissent escalader et grimper sur l'arbre et dans l'arbre et mettre des choses et tout ça. Alors, ce sera un objet de jeu, un objet d'art, un objet de humanité, de Teranga, comme ça. Ouais. Il y aura de la musique, il y aura de bouffe et de tout cela. Et ce sera un théâtre et nous allons faire une bonne connexion avec Dakar pour que tous à Dakar puissent assister. Hein? Ce sera filmé et on peut après retourner à Dakar et montrer le film dans une salle ou pour le voisin, la famille. Et comme ça, ça va marcher. Oui. Avec Internet, il y a plein de possibilités techniques. On va tout rechercher. Quand j'arrive à Dakar dans le mois d'août, on va travailler sur ça. Il faut trouver des jeunes qui savent un peu d'Internet et de computer, qui sont enthousiasmés par le projet, peut-être artistes, qui connaît un peu les techniques et on va entraîner, on va essayer, on va expérimenter. C'est comme Radio Teranga, c'est la même chose, mais avec le vidéo aussi. C'est ça.
Oui. Non, donc c'est un projet là pour les gens qui font de la sculpture, quoi.
Encore?
C'est pour les gens qui font de la sculpture. Comme ça doit être en France, il se passe des trucs comme ça, des matériels récupérables.
Oui, je m'occupe de ça.
Voilà, c'est bien.
Oui.
Ça peut marcher, il y a des gens qui peuvent le faire ici.
Oui, il y en a, mais il faut le reconnaître, il faut le connaître, il faut parler, il faut converser. Alors, peut-être on peut préparer déjà un peu avant que j'y arrive, mais c'est un petit changement du tout le projet, mais c'était toujours l'idée de faire la connexion par Internet.
Moi, je ne promets rien, mais si je connais quelqu'un, mais je ne sais pas si depuis. Mais je ne prends rien, hein, mais si je trouve quelqu'un qui est capable de faire ce genre de truc-là, moi je vais le mettre en relation.
Oui, c'est très bien.
Je vais le mettre en relation comme ça, vous allez discuter un peu quoi.
Oui.
Et je ne prends rien quoi, j'essaie de voir un peu à quoi ça doit. Donc, ce n'est pas évident quoi, ce n'est pas pour aujourd'hui, pour plus tard. Hein. Si je trouve quelqu'un, je vous laisse faire.
Oui. Il faut toujours cultiver le réseau de connexions et des amis et de capacités ensemble, bon le modèle, n'est-ce pas?
Donc, si on va associer d'autres personnes qui sont dans le monde du métier, c'est plus rapide et puis ça s'améliore, quoi.
Ouais.
C'est mieux, quoi. Il faut essayer d'associer le maximum de personnes. Mais moi, je ne connais rien, quoi, mais je connais des gens qui le font.
on va apprendre ensemble. Moi,
Je parle très bien le
Wolof, il faut apprendre aussi ça. C'est ça. Moustapha, tu es là?
Oui, je suis là, oui.
Ok, tu as trouvé ta soeur?
Oui, j'ai trouvé Kine et j'ai parlé aussi avec maman.
Ah oui? Ils veulent pas rejoindre l'émission?
Je les ai dit, hein. Mais oui, elle vient de se lever et tout ça, elle se prépare, elle va rentrer.
Ah ok, plus tard alors, ok. 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 Nous sommes en train de faire une collection de musique du Sénégal qui est important pour nous et Bart il a préparé quelques petites chansons et c'est envoyé par Kine.
Ah ok.
On peut jouer ça tout à l'heure. Bart, kun jij zo meteen dat nummertje van Kine opzetten, die AI versie van een Cora dinges. Dat is leuk om even aan te komen.
Ja, dat heb ik eigenlijk gedaan en ik vrees dat goed kan horen op Jitsi.
Ah, probeer het.
Ja, ik zet hem gewoon aan en dan.
Ik wist jou schelen.
Oké, stap je. Dat is waar ook, ik heb gelijk. Ja, is zie.
Thank you.
chanter cette chanson-là.
C'est une chanson avec Cora et Ia.
Ok, c'est instrumental quoi, c'est instrumental.
Oui, mais elle fait aussi digital, parce que c'est le Cora traditionnel. Mais d'accord, transformé avec intelligence artificielle pour le faire un ton plus moderne, je crois. Ouais,
ça ressemble aux musiques maliennes. Il y a les Sénégalais de l'Oriental, les Kazassé, voilà. Ils jouent ce genre de musique, quoi.
Ok.
Il y a les Soninké, les Sénégalais Soninké, les Maliens, les gens qui venaient de Mali. Ils sont installés au Sénégal, tu vois. Les à Tambacounda, tu vois. C'est des gens qui jouent ces genres de musique.
Ouais, c'est
un peu de temps. Ouais, ouais, allez.
Oui, c'est moi. Ouais, donc, c'est toi qui es arrivant parce que tu vois l'ancien chanteur de course là, Maurice Kanté.
Je connais Maurice Kanté.
Voilà, quand c'est un second malien, donc quand il était parti en Europe, il a utilisé son Chakora, quoi. Donc c'était devenu une Chora électrique. Après ce Chora là, il les concerts, il peut s'animer, et tout ça, c'est un peu Maurice Kanté, c'est une pièce qui est plus de la Chora moderne.
Maurice Kanté, c'est un malien.
C'est un malien, oui.
Ouais, ouais.
C'est un malien.
C'est ça.
Mais il avait joué avec Salut Keita au début de ses enfants, quoi.
Définitivement.
Ensuite, ils se sont dispersés, ils se sont séparés.
Les amis parcatiniers, contre. Les gens de musique là, tu le vois aussi au Sénégal. Oriental. Like Tambacounda, tu vois. Like Casamance, les Fouladou, le Peul Fouladou. Ils jouent ces genres de musique, les Moninké, les Sossé, Djaliba Kouyaté, Djaliba, lui c'est un Gambien, il a vécu ici au Sénégal, même nous on a grandi avec ces genres de musique, avec lui, on a cru qu'il était Sénégalais, mais il était un Gambien. Après, il est retourné en Gambie parce qu'il était au Sorano de Dakar. Il jouait ce genre de musique. Nous, on avait cru qu'il était Sénégalais, or qu'il n'était pas Sénégalais, il était Gambien. Et comme que l'industrie musicale a plus de force ici au Sénégal, c'est pour cela qu'il était venu ici pour joindre les troupes sénégalaises au Sorano. Tu connais? Voilà. Moi, je suis qu'il était Gambien.
Comme on dit, la culture n'a pas de frontières, quoi.
Définitely.
Donc, c'est une richesse qu'ils ont, parce qu'il y a beaucoup de variétés de musique traditionnelle qu'on vit aussi au Sénégal, mais pas seulement au Sénégal, mais en Afrique, mais que les gens n'exploitent pas, quoi. Donc, il y a beaucoup de musique traditionnelle, ancestrale, qui sont en Afrique, mais les gens n'approfondissent pas ces gens de. Ne prennent pas l'initiative de faire sortir sur le plan mondial ce genre de musique, quoi.
C'est vrai.
C'est de la musique qui est très riche en matière de la musique traditionnelle. Malinké, CD, Viola, même si on sait qu'il y a beaucoup aussi ici au Sénégal. Mais les gens n'exploitent pas ça, quoi. Donc, les gens font les guitares, les trompettes, alors qu'il y a des.
Il y a d'autres types de musique au Sénégal, mais le Malak a dominé. Voilà.
Mais c'est ça le problème, quoi.
Le Malak a dominé toutes les sortes de musique qui sont ici. Il y a le Yéla, comme Baba Mal, c'est le roi du Yéla. La musique qu'il fait, s'appelle le Yéla. Il y a la musique Serer, il y a la musique Mandeng, il y a la musique Djola. Il y a beaucoup de sortes de musique qui sont ici au Sénégal, mais tu sais, c'est le Malak qui a dominé.
c'est pas exploité quoi.
Voilà, le Mbalak a terminé.
Mais, je veux dire aussi quelque chose. Hein. Ici au Sénégal, les gens n'ont pas de culture musicale quoi. Donc avec le Mbalak, c'est facile. Donc il y a les sabars, il y a tel. Les gens sont en train de danser le bas pour scène là. Et tout ça, c'est ancré dans notre quotidien quoi. Donc, non. Alors, c'est le succès qui sont des mots. La vraie musique Mbalak, une vraie Mbalak. Avec des paroles vraiment, des paroles qui font réveiller nos peuples, qui passent à l'éveil des peuples, eux ils ne font pas. Parce que souvent ce sont les messages qu'ils véhiculent, donc qui ne sont pas vraiment des messages qui peuvent aider beaucoup de gens. Quoi.
Donc, vous savez,
ils chantent les hommes qui ont de l'argent. Pour qu'on leur donne de l'argent. Pour qu'on leur donne.
Mais ça, c'est les griots. Les griots, c'est comme ça. Les griots ici au Sénégal, ouais. Ils chantent loin de tes grands-pères pour que tu leur donnes. Mmh. Ouais. Mmh. Même lui, nous, il a fait des recherches parmi tous ces griots-là, like Ndiagambay, like les Ngoyan à Kaolack, à Kermou, Medina Sabah, tu vois. Il a fait des recherches par la musique sérère, de par les musiques Diola, de par les musiques Feul. Yusnour a tout touché, hein. Il a tout touché. Mais il a beaucoup fait pour la musique sénégalaise, mais c'est le Mbalak qui a dominé.
Mais c'est le Mbalak qui domine.
C'est le Mbalak qui domine, quoi. Mais c'est ça. C'est ça.
C'est pas bien, quoi. Yusnour, il a demandé de son Mbalak aussi pour que ça sorte sur le plan international.
Mais bien sûr. Il a joué avec beaucoup d'artistes européens, quoi.
Bien sûr, avec Peter Gabriel, avec Nene Thierry, avec beaucoup de personnes. Il a joué avec beaucoup d'affaires de Dieu, beaucoup de partout, hein, n'importe quel genre. Il a poursuivi son bonhomme chemin, quoi. Donc, lui, c'est ce qu'il fait. Il pense pas.
Tu vois la musique acoustique, tu vois le Cherlo, Cher Ndigallo, c'est un grand homme.
Oui.
Il fait de la bonne musique.
Oui.
C'est pour cela que Yusnour l'a pris, ils ont fait des morceaux ensemble, des duos. Et même il a fait sortir Cherlo pour que les Occidentaux le connaissent, qui est Cherlo. Mais lorsque les Allemands et les Occidentaux ont vu Cherlo, ils ont dit, mais. Où était ce gars-là, mais Cheikh Ndigallo a des trophées que Yusnour n'a pas eu à travers la musique. Il joue la guitare, il joue la batterie, il joue beaucoup d'instruments, le sabar. Hein? C'est un musicien complet.
C'est un musicien complet. Il est bon.
Voilà, c'est ça.
Il est bon.
Voilà.
Mais là, il y a des problèmes avec Yusnour, quand il se passe ce qui s'est passé en PV, il y a des problèmes. Bon, c'est pas. Je ne veux pas mettre le pied dans ça, mais. Donc, il y a eu un moment donné, il ne s'entendait plus, quoi. Il a parlé un peu mal de Yusnour. Mais pour moi, Yusnour, c'est pas seulement sa musique, mais aussi, bon, peut-être. Moi, j'ai longtemps jamais parlé de Amman, Terren, des autres musiciens, quoi. Ça, c'est. Je lui reconnais cela, quoi. Et je n'ai jamais entendu Yusnour qui parlait d'un musicien, d'un musicien, celui là, ce qui était fait, c'est. Donc lui, il garde son. Tant qu'il a son musique qui est là, quoi, il n'est pas là à parler du mal de la musique. Ça, je le reconnais cela, quoi.
Okay,
donc, en tant qu'artiste aussi, bon,
je note.
Oui.
Alioun, vous écoutez.
Alioun.
Interruption, je crois que Bart veut savoir une chose très importante sur la musique à Sénégal. Ah. Parce que Bart, il est connaisseur de punk. Vous connaissez punk ?
Qu'est-ce que ça ?
Punk.
Punk.
Punk ou bien punk ? Punk. Oui, la musique s'appelle punk.
Punk rock.
Oui. La musique qui s'appelle punk.
Oui, c'est punk. Et Bart peut expliquer tout. Peut-être qu'il peut jouer une chanson pour connaître le punk. Parce que je veux savoir s'il y a du punk à Sénégal aussi.
Ok, moi je ne connais pas le punk. C'est la première fois que j'entends ce genre de musique punk. Je connais le punk. Le punk qui vient d'Amérique et le pop. Moi je ne connais pas le punk.
Et que c'est pas dans la prononciation.
Je peux vous bien prononcer le nom.
Écoute, Bart.
Bart Fatou. C'est une chanson contre la le roi. No, what's a female queen? What's a queen in
Doe maar in French? Het Engels. Doe maar in het Engels. Mustafa vertaald.
A song against the queen of England by the partisans okay. of England, and it's called okay. Power and okay. Greed, because they're accused of you know all this power and greed around this royal family. So that's what the song is about. I hope you can hear it. I put it extra loud here. And I hope it all works out. That's punk music. Here it comes.
Okay.
La musique va venir.
Ok,
on entend les paroles.
Ok, je mets le microphone. Ok, c'est tout. Yeah, yeah, yeah. Alors, c'est punk. C'est une chanson contre la reine d'Angleterre. C'est une musique, disons, primitive, brutale, violente. C'est un mouvement qui est apparu dans les années 70 à Londres et puis à toute Europe et partout le monde, jusqu'à Brésil et Afrique du Sud, mais apparemment pas à Sénégal. C'est intéressant.
Mais qu'est-ce que c'est dans le punk?
C'est la musique, hein? C'est ce que tu viens d'écouter. C'est le style qui s'appelle punk. P-U-N-K.
P-U-N-K.
Oui. Cherche punk. Ça sur YouTube et tu trouveras beaucoup.
Or just the internet. It's too much. It's all bullshit. It's all not true.
Okay. Please send us a link in the chat. That's nice.
Many good sources to read about.
Ok, Mustafa, écoute, tu es l'agent de communication. Tu dois connaître la fonction de Yitzi qui s'appelle chat. On peut écrire des messages entre nous. Tu peux ouvrir le chat en cliquant sur les trois points en bas, un peu à droite. Si tu touches les trois points, ça ouvre un programme avec 10 lignes et la 16e ligne, c'est chat open, ouvert le chat. Et tu peux m'écrire ou tu peux me donner la main. Maintenant, j'ai mis la main pour indiquer que je dois dire quelque chose. Je peux écrire aussi un message dans le chat. Et je dis allô, allô. Allô. Allô? Zalo, allô? Ok, tu peux accéder au chat, Mustapha? Je t'attends.
Mustafa Chef. Chef.
Ja. Ah, nou is hij weg. Il est parti. Il va rejoindre tout à l'heure. Nou, interessante experimenten dit. Het gaat
dus,
goed.
Maar nu zwijgt iedereen.
Ja, Mustafa, toujours là. Ja, il a rejoint. Mustafa, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Ok, tu as cliqué sur le bouton tout à gauche, à droite.
Oui, oui.
Mais c'est pas ça. À côté, il y a une ligne avec trois points. Tu vois? Regarde l'écran. En bas. Le son n'est pas clair. Oui, c'est... Ok. Ok, on est là. Bonjour. Ok, le son n'est pas clair. Het geluid is niet erg helder, zegt Alioun. Misschien kunnen we daar wat aan doen. Of...
Okay.
Can you explain to Alioun qu'est-ce qui s'est passé? Mustafa? Hallo Mustafa, tu peux traduire pour Alioun? Ou tu as compris Alioun? Ah Mustafa, il y a un problème. Ok, je vais expliquer à Alioun parce que c'est compliqué. La musique qu'on a jouée, le punk, c'était pas normal, mais c'était un peu avec un détour dans l'air. Et pour cela, c'est la raison pour laquelle le son n'était pas trop clair. Bah, maintenant, quand on parle, c'est beaucoup mieux, n'est-ce pas?
Oui.
Ok, ok. Où est Kiné?
Sinon, comme on dit, la musique n'a pas de frontières. Moi, je suis même un. Moi, j'écoute toute forme de musique. D'où est-ce que ça vient? Moi, j'écoute quoi?
Oui, oui.
J'aime bien la musique, mais j'aime bien la diversité de la musique. Je suis même un. Moi, j'écoute tout. Quoi. Pour tout résumer avec moi, j'écoute tout.
C'est l'échange, ouais.
Waouh, j'écoute tout, quoi. Ça, c'est absurde. C'est plus enrichissant, quoi, donc, de l'écouter de la musique depuis. Pas seulement dans son pays, mais c'est toujours sur le monde quand même. Quoi. Et comme on dit, le village, c'est juste un village de l'intérieur, donc il y a peu de concessions, quoi, mais le village, le monde, c'est un village de l'intérieur. Donc il y a des concessions, comme dans les villages, il y a des concessions, et le pays, tout ça, il faut en soi. Et c'est ça qu'on peut dire, quoi, c'est pas seulement le Sénégal, est ancré uniquement dans la musique sénégalaise, qui vient dans ce qui se passe dans le pays, la culinaire, tout ça. Moi, je préfère varier. J'aime toutes les musiques, mais la musique reggae, je la préfère. Quoi. Mais j'écoute du jazz, rom, kato, et puis il y a beaucoup de grands musiciens que je connais, et je n'ai pas dit le nom, juste un peu comme ça. Bon, il y a une musique qui me fait dire, vraiment, c'est la musique reggae, quoi. Donc, je peux rester à l'heure de déjeuner, c'est le reggae, quoi. Mais n'empêche que tout, hein. Pour les cartes, ils sont les claques, ils sont les violons, ils sont les Pink Floyd, les Stickles, les Pickles, les Morrison.
Ok, ok, j'aime bien aussi.
Etc.
Alioun, moi je suis vieux comme toi et je connais aussi Van Morrison, Pink Floyd et tout ça. J'aime bien. J'aime bien quand tu joues aussi. Si tu as ton guitare avec toi, tu peux jouer peut-être une chanson qu'on peut écouter ensemble.
Là, tellement. Ok, ça marche.
Pourquoi pas?
Je vais récupérer mon guitare, faire dans ensemble.
On va jouer une chanson pour Kiné parce que c'était son anniversaire et il va nous rejoindre prochainement parce que Mustafa il va le chercher. Hein?
Je vais le chercher.
Ok.
En fait,
qu'est-ce qu'on peut chanter?
Je ne suis pas un très grand musicien,
Dat is mijn zoon.
Je hebt een très grand musicien, mais je me suis dit quand j'ai sorti ma guitare, j'ai une chanson.
Ah, on s'est débrouillé.
Oui. On a un peu de plus froid.
Dégueulé.
Voilà. Donc, attendez. Donc, il y a une chanson que ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué. Allô? 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 Allô?
Allô?
Oui, oui, allez-y. Allez-y.
Ok, d'accord. Je vais essayer de faire un anniversaire à votre concert là. Je ne sais pas plus comment il s'appelle.
Kine. Kine. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Birthday to you.
Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Tu ne sens pas ça encore.
Je
ne sais pas, il faut que je retravaille ça pour avoir.
À la prochaine.
Mais quel genre de musique vous voulez écouter? Quel genre de musique vous voulez écouter? Bon, j'ai créé quelque chose. J'ai créé le duc que vous étiez au bled des gens là. Il y avait Moussafa et il y avait Moussa aussi. Le décon Moussa en descente qui est là au paradis. Donc, quand le livre est d'esprit, bon, moi j'étais assis là-bas. C'est vous-même qui avez filmé quoi. Donc, j'avais créé une chanson. On avait improvisé avec Moussafa. C'est Moussafa qui chantait. Et vous avez enregistré cela quoi.
Oui, mais il faut attendre Kiné.
Ah, il faut attendre Kiné, hein.
Où est Kiné? Allez, allez. Prends une bagne ou quoi? Une bain.
Ou bien, en avant-là, je vous mets une chanson de Bob Marley.
C'est toujours bon. C'est toujours bien.
Allô?
Allô?
Allô? Je peux vous mettre une chanson de Bob Marley en avant-là?
Oui, 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 bien sûr.
D'accord, ok. Celle que j'ai créée, ou bien? Allô? Allô?
It's, I liked it.
Like, si. Ok. Je vais faire la chanson de ce qu'on avait joué avec Moussafa. Thank you.